vivant, visuel, littérature, ces façons de voir le rendez-vous culture de NVS présenté par Samuel. Aujourd'hui, une édition consacrée à la littérature et plus précisément à un livre qui traite d'un fait divers que les habitants du Morvan ont encore en mémoire, Le dentiste du Morvan. Je reçois pour en parler le chroniqueur judiciaire et chef de rubrique au Journal du Centre, Bertrand Hiverneau. Bonjour Bertrand, ça va bien ?
Bonjour, oui, ça va, merci.
Le dentiste du Morvan, qu'on a plus tard appelé le boucher du Morvan, hein, c'est sous ce nom que certains le connaissent encore aujourd'hui. Alors c'est donc un imposteur néerlandais installé à Grand Frais à Château-Chinon et qui, entre 2008, date de son installation, et 2012, détruit la dentition et parfois même la santé de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes.
Exactement.
4 années de calvaire pour les patients, mais aussi arnaque à l'assurance, surfacturation, prescription de soins fantaisistes. Tu consignes soigneusement tous ces faits dans un livre paru en 2023 chez Deboré. Ce livre est donc intitulé « Le dentiste du Morvan, un fait divers glaçant sur fond de désert médical ». On en parle tout de suite si tu veux bien. Dans la deuxième partie de l'émission, je tendrai mon micro à ma camarade Murena, une nouvelle voix de l'émission Façon de voir. Pour la pastille « Avoir à lire », Murena évoquera la chanson de Diane Tell « Si j'étais un homme », ainsi que la pièce de théâtre « Un tramway nommé Désir » qui se joue actuellement au Bouffe Parisien. Restez donc à l'écoute de NVS, Façon de voir spéciale littérature. Ça commence juste après Baxter Dury, « Cocaine Man ».
14th of June, 1912. Feeling stripey, woke out of bed, thought mama, you done me brown. Looked over the kitchen sink, thought wow, that's my house. I paid the mortgage, it's mine. Got up, cup of coffee, went down nice to now. Made me feel a bit moody. Then I stood up straight and proud, I knew I was a man. Thought mama, you done me proud.
Cocaine man, here comes the night. We wear friendly smiles.
Aujourd'hui, pour l'édition spéciale littérature, mon invité Bertrand Hiverneau nous parle de son livre « Le dentiste du Morvan ». Bertrand, pour commencer cette émission, rappelons les faits principaux, si tu veux bien, même si c'est un fait divers qui est bien connu des gens du coin et qui a même eu une résonance médiatique nationale. Est-ce que tu peux nous redire qui est ce dentiste et ce qu'il a fait ?
C'est un dentiste qui s'installe à Château-Chinon en 2008. C'est un dentiste néerlandais. Les collectivités étaient en quête d'un dentiste car il n'y en avait plus dans la ville depuis 2 ans. Et ils ont chargé un chasseur de tête, comme on les appelle, de leur trouver un praticien. Et celui-ci était lui-même néerlandais. Il y a beaucoup de néerlandais dans le Morvan. Donc il a eu l'idée d'aller chercher un dentiste néerlandais. Il en a trouvé un, celui-ci s'est installé, donc à la fin de l'année 2008, une installation en grande pompe. Il y avait des élus pour inaugurer le cabinet, un cabinet complètement refait à neuf, de beaux équipements, une belle réception, du personnel. Et tout de suite, il y a eu un afflux de patients dans ce cabinet. Il y avait d'un côté un vrai besoin. De l'autre, il y avait une offre intéressante, c'est-à-dire qu'il prenait les gens dès 7h30 le matin, il travaillait jusqu'à 7h30 le soir, il ne refusait jamais un patient, et déjà quand on a mal aux dents, c'est dur d'attendre. Et là, comme il y en avait un à côté de chez les gens, ils ont foncé chez lui. Donc ça a fonctionné comme ça pendant 1 an, 2 ans, puis au bout de 2 ans, il commençait à y avoir des petits soucis. C'est-à-dire des patients qui n'étaient pas contents de ses services. Mais ces patients étaient chacun de leur côté. Ils ne se connaissaient pas les uns les autres, donc chacun pensait que c'était son problème personnel, que c'était un épiphénomène. Il s'est avéré plus tard que c'était un système et pas un épiphénomène. Mais ça, on ne le savait pas à l'époque, donc les gens, il y en a qui sont partis avec leur douleur chez d'autres praticiens, il y en a qui ont arrêté de voir le dentiste, il y en a qui ont continué à lui faire confiance. Et pour beaucoup, la situation s'est aggravée. De petits problèmes dentaires au début, on est arrivé à d'énormes problèmes dentaires et à des problèmes qui débordaient sur le reste de leur santé. Des abcès à répétition, des problèmes de mastication, des problèmes pour fermer la mâchoire, enfin des choses assez incroyables. Donc toutes ces personnes, au début, affrontaient ces problèmes seules. Certaines ont contacté l'ordre des chirurgiens dentistes, ce qui est la méthode habituelle quand on a un souci avec son praticien. Voilà, des procédures ont commencé comme ça, mais séparées. Et l'affaire s'est vraiment transformée 4 ans plus tard, en 2012, quand s'est créé un collectif de victimes. Ça a vraiment été le tournant, c'est-à-dire que plusieurs victimes se sont rencontrées par hasard au début, puis après elles ont compris qu'il y avait quelque chose de vraiment pas normal, que ce n'était pas juste une erreur, deux erreurs, trois erreurs d'un spécialiste, c'était vraiment un problème récurrent, c'est-à-dire qu'il rencontrait plein de personnes qui se plaignaient de lui, donc elles se sont dit, là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc la plupart avaient déjà engagé des procédures avec l'ordre. Elles se sont dit l'étape suivante c'est la justice. Donc elles ont commencé à aller en gendarmerie. Et là, la réception n'était pas forcément chaleureuse. C'est-à-dire que venir en gendarmerie dire qu'on a un problème avec son dentiste, le dentiste ça reste un notable dans une ville comme Château-Chinon, ça reste une personne pour laquelle on a un a priori de respectabilité. Donc premier accueil des gendarmes était un petit peu réfrigérant, c'est-à-dire vous êtes sûr, vous voulez déposer plainte contre votre dentiste, mais attention, ça va se retourner contre vous, vous allez être poursuivi en diffamation, est-ce que vous voulez vraiment continuer ? Bon, quand un homme en uniforme vous tient ce discours, c'est vrai qu'on y repense à 2 fois. Donc sans doute certains n'ont pas déposé plainte à ce moment-là. Mais il y en a d'autres qui se sont entêtés, qui se sont dit non, c'est vraiment pas normal. Et l'étape suivante, ça a été de créer une association, que le collectif devienne une association. Et là, elles se sont dit, si la justice veut pas nous suivre pour l'instant, si l'ordre, ça prend du temps, parce que les procédures devant l'ordre des chirurgiens dentistes, c'est assez long. Qu'est-ce qu'on fait? Et elles se sont dit, on médiatise l'affaire. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont contacté le journal du centre. On est à cette époque-là, à la fin de l'année 2012. On a une époque où le cabinet a fermé, parce que l'été précédent, le dentiste néerlandais donc a licencié son personnel et fermé son cabinet. Pas parce que, officiellement, pas parce qu'il faisait trop de dégâts. Officiellement, c'est parce qu'il serait tombé lors d'un accident domestique, il serait tombé d'une échelle. Il se serait blessé à l'épaule et il aurait un bras inerte, donc plus moyen d'exercer. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué à ses employés, c'est ce qu'il a expliqué aussi à ses assureurs, à qui il a demandé de lourds dédommagements. Et donc, à l'époque, quand le collectif rencontre le journal du centre, il n'y a plus de dentiste à Château-Chinon. Mais il y a encore une histoire et une sacrée histoire. Donc, ils viennent vers nous. Ils viennent pas seulement... la première fois, on rencontre 4 personnes. Ils ne viennent pas seulement avec leur récit, ils viennent aussi avec des expertises. Et c'est donc des examens médicaux réalisés par d'autres dentistes qui sont assermentés. Et les expertises sont édifiantes. On voit très clairement à leur lecture qu'il y a un gros problème d'hygiène et de choix dans les traitements qui étaient faits au cabinet de Château-Chinon. Il y a beaucoup trop d'abcès pour que ça soit juste des accidents et surtout, il y a beaucoup de soins qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire pourquoi soigner cette dent-là? Pourquoi le faire ainsi? Donc, dès le début, avec ses expertises en main et ses récits, on se demande si il n'y avait pas un but autre que le but médical, qui aurait été un but lucratif, tout simplement de faire de l'argent au maximum. Chacune de ces personnes, et ce sera de même pour toutes les autres ensuite qui viendront à parler de leur séjour au cabinet dentaire du Morvan, chacune de ces personnes dira, dès qu'on rentrait, on était accueillis et au bout de 5 minutes, on nous disait qu'il y avait un problème et qu'il fallait planifier 12 rencontres, 12 séances, même pour des gens qui venaient juste pour un détartrage, quoi. Donc, au début, elles ont fait confiance. Si un spécialiste vous dit qu'il y a un problème avec vos dents, il y a peu de monde qui est spécialiste des dents et qui peut s'auto-soigner, donc elles ont fait confiance. Donc elles sont revenues pour ces 12 séances. Et donc 12 séances, c'est 12 remboursements par la Sécu, c'est à chaque fois des radios, des choses chères. Mais on se rend compte, les premiers dentistes qui expertisent les patients se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, des examens qui sont facturés, qui n'ont pas forcément été faits, des soins sur des dents qui étaient tout à fait saines. Donc, est-ce que derrière le problème sanitaire, il n'y aurait pas aussi une escroquerie? Dès le début, on a cette idée en tête. Donc nous, au Journal du Centre, on publie un premier article qui relaie les doléances des patients. Et très vite, on publie un deuxième article, parce qu'après la parution du premier, il y a plein de gens qui nous appellent, qui nous demandent « mais il m'est arrivé exactement la même chose, moi aussi je veux en parler ». Et au niveau du collectif eux-mêmes, c'est immédiatement qu'ils reçoivent énormément d'appels. C'est-à-dire que avant de rencontrer le Journal du Centre, ils étaient 6. Un mois après, ils étaient 50 et 2 mois après, ils dépassaient la centaine de membres. À partir de là, s'est engagé un combat. On ne peut pas dire ça autrement parce que c'était le pot de terre contre le pot de fer, c'est-à-dire un petit collectif de patients du Morvan qui va affronter un dentiste. Il ne partait pas gagnant. En France, en plus, on n'a pas on n'a pas l'habitude, comme dans les pays anglo-saxons, comme aux États-Unis notamment, de faire ce qu'on appelle des class actions, c'est-à-dire plusieurs victimes qui se mettent ensemble pour pouvoir faire reconnaître leur préjudice. Ici, la justice est plus individualisée, ce qui fait que c'est un fonctionnement qui n'est pas habituel, et ce qui fait que l'affaire, quand elle va devenir judiciaire, va se mettre en branle aussi très très lentement. Ça a déjà été très lent au début que les victimes se retrouvent, et ça va être très lent que leur préjudice soit réellement reconnu. Ça va prendre plusieurs années avant que, au moins plusieurs mois avant qu'elle soit prise au sérieux, et plusieurs années avant que ça aboutisse à quelque chose. Voilà.
On va parler plus précisément de la mise en route de l'appareil judiciaire, mais avant ça, pour prendre la mesure de la gravité des faits reprochés au dentiste, quelques indications extraites du livre. Alors, tu parles de morceaux de fraises coincés dans les dents, des piqûres dans les sinus qui créent des œdèmes au niveau des yeux, une paralysie faciale, un morceau de compresse oublié sous un plombage, des abcès chroniques, etc. Il y avait également ce cas qui m'a vraiment marqué, le cas d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, sans revenu, qui, parce qu'il veut embrasser une carrière militaire, se rend chez le dentiste pour obtenir un bilan dentaire. Van Nierop va lui détecter de nombreux problèmes, il va lui donner une dizaine de rendez-vous pour les régler. Quelques semaines plus tard, le jeune homme sera défiguré, 10 de ses dents, à l'origine saines évidemment, vont casser, il n'aura pas son bilan dentaire et ne sera jamais soldat. Évidemment, ce jeune homme était à la CMU, comme beaucoup des patients de Van Nierop. Ce régime-là assurait un remboursement à 100% des frais, c'était donc intéressant pour le dentiste qui était assuré d'être payé. Et des cas comme celui-là, des patients fragiles dont on pouvait abuser sans risque parce que bien assuré, tu en recenses des dizaines dans le livre.
Oui, il y a plein d'histoires comme ça. On peut dire que ce dentiste a gâché de nombreuses vies. Bon, bah, c'est pas un meurtrier, c'est sûr. Faut rester dans la mesure. Mais les dents, quand on s'en prend aux dents de quelqu'un, on s'en prend à l'intime. Les dents, on s'en sert absolument tous les jours. Si j'avais mal aux dents, très mal aux dents, je pourrais pas vous parler aujourd'hui. Si j'avais très mal aux dents, j'aurais pas pu manger à midi. Si j'ai mal aux dents, ma vie change complètement. Et la vie de ces gens-là a complètement changé à cause des douleurs et des conséquences qui, des fois, ont même dépassé la zone dentaire. Il y a eu des gens qui ont perdu de l'acuité visuelle. Il y a eu des gens qui ont eu des problèmes pour manger, voilà. Et il y en a d'autres qui ont eu des problèmes psychologiques. C'est-à-dire que quand moi, peut-être le témoin qui m'a le plus marqué, c'est une autre jeune personne, c'est une étudiante qui m'avait raconté que tout simplement, elle n'osait plus sourire. Et puis voilà, quand on a 20-25 ans, quand on est en fac, On a envie d'étudier, mais on a aussi envie de profiter de la vie, on a envie de sortir avec les copains, mais quand on a peur, ne serait-ce que de sourire à quelqu'un, c'est un sacré handicap dans la vie, et à une époque où tout doit être que bonheur, on est sacrément embêté par tout ça, et tout ça venant d'une seule et même personne. C'est vrai que ça a créé beaucoup de ressentiments et voire de la haine contre ce personnage.
Alors, il prenait tout le monde. Il avait son cabinet aménagé sur 2 étages. Il installait un premier patient au rez-de-chaussée. Il lui faisait une piqûre anesthésiante et pendant que le produit faisait effet, il installait un autre patient à l'étage, lui administrait également une piqûre, d'ailleurs, quelle que soit la raison de la visite. Puis, il redescendait s'occuper du premier patient. À ce rythme-là, même en admettant qu'il eût été compétent, ce qui, évidemment, n'est pas vrai, n'est pas le cas, pas sûr qu'on puisse faire du bon travail. L'enfer Van Nierop dépassait même le périmètre de son cabinet, puisque tu dis à la page 71 du livre que les patients qui avaient été charcutés par le dentiste ne pouvaient même pas espérer rattraper les dégâts chez d'autres dentistes, car certains d'entre eux refusaient de s'occuper des dents travaillées par Van Nierop de peur d'être tenus responsables par la suite des complications qui pouvaient arriver. Pas étonnant que de nombreuses victimes aient fini par contracter des phobies à l'endroit des dentistes et même, dans certains cas, à l'endroit du corps médical dans son ensemble. Certaines victimes vivent aujourd'hui avec leurs séquelles et ont tellement peur qu'elles refusent catégoriquement d'être examinées.
Une phobie ou alors, voilà, qui ont été rejetées par le corps médical parce que le dernier intervenant peut être tenu pour responsable de tout l'État. Parce que le principal problème pour ces gens, c'est que Il n'y avait pas, durant l'enquête, ils n'ont pas retrouvé les radios qui ont été censément faites avant la toute première intervention par ce dentiste. Cette radio-là donnait le point de départ. Donc, on pouvait voir les dommages causés à partir de là et les dommages qui pouvaient exister avant. C'est une base de départ. Sans ça, les autres dentistes se sont dit, non, moi j'interviens pas, on saura pas ce que j'ai fait et ce que les autres ont fait. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés dans une totale impasse médicale, et il y en a d'autres, l'impasse était psychologique, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus jamais s'asseoir sur le fauteuil d'un dentiste. Et déjà que parmi la population pour qui tout s'est toujours bien passé chez un dentiste, il y a une frange de personnes qui vont à reculons. Là, ces gens-là, comment leur en vouloir de se dire... Non, plus jamais. Et il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans le Morvan avec des mutilations et qui préfèrent vivre comme ça plutôt que d'aller voir un dentiste.
Cet homme qui s'appelait Jacobus Van Nierop a fini après un long périple au Canada puis aux Pays-Bas où il a tenté de retourner pour se faire un petit peu oublier, a quand même fini par être arrêté. La France va obtenir son extradition des Pays-Bas, il sera jugé à Nevers, condamné à 8 ans de prison et à une interdiction à vie d'exercice de la médecine.
Oui. En France et aux Pays-Bas. Il a effectivement été arrêté, il y a effectivement eu quelques soubresauts dans l'histoire, parce que non seulement le point de départ était assez édifiant de cette histoire qui a tout du scandale sanitaire, mais en plus il y a eu tout un volet assez policier, assez rocambolesque, avec sa fuite au Canada, effectivement, avec son passage par les Pays-Bas, l'extradition, tout ça. Mais au final, au bout du compte, en 2016, il a été condamné, effectivement, il a été reconnu coupable, il a pris 8 ans alors qu'il en encourait 10, et c'est une peine qui est lourde. Pour confidence, l'ordre des dentistes de la Nièvre pensait à l'époque qu'il prendrait 3 ans au maximum. Effectivement, 8 ans, ça a décroché des mâchoires dans l'autre sens du terme. Après, il n'a pas fait appel de la décision, donc il est parti pour purger ses 8 ans. Il a fini sa peine aux Pays-Bas. Il a demandé à être en cours de peine, à être transféré aux Pays-Bas, ce qui est un droit, et il l'a obtenu. Et depuis, avec les remises naturelles de peine, il est sorti il y a environ 1 an ou 2 ans, après des passages de détention à l'extérieur. Il est aujourd'hui complètement libre et complètement introuvable aussi.
L'autre chose absolument ahurissante dans cette affaire, c'est que quand enfin la machine judiciaire se saisit du cas Van Nierop, au départ, alors d'abord, comme tu le dis, ça arrive beaucoup trop tard, hein, mais en plus, quand ça arrive, c'est pour lui demander de s'expliquer sur des motifs ridicules. Hein. Je reprends tes mots, c'est l'expression que tu emploies. Ridicule au regard des faits qui pourraient former les vrais motifs de poursuite. Ces faits, ce sont tout d'abord... un article dans le journal qui, parce qu'il contient des coordonnées, a été jugé publicitaire. On n'est pas censé, quand on dit dans le journal qu'un dentiste s'installe dans tel ou tel endroit, on n'est pas censé donner l'adresse et le téléphone parce que c'est considéré comme de la publicité indirecte. Donc ça, c'est le premier grief, première chose reprochée au dentiste. L'autre chose, c'est l'usage d'un faux prénom pour exercer la médecine. Il s'appelait en réalité Jacobus, mais se faisait appeler Marc dans son cabinet. Enfin, le dernier point concerne l'activité de son épouse, qui facture des actes de prothèse dentaire, alors qu'elle n'est pas prothésiste. Elle a simplement fait un stage d'une semaine en Thaïlande en prothèse dentaire. Donc on voit bien que ce sont des faits minimes, ce sont uniquement des faits minimes qui alertent les autorités. Les vrais problèmes, la douleur des patients, on l'entendra beaucoup plus tard dans cette affaire.
Exactement, les premiers griefs sont effectivement ridicules. Ils sont fondés, ils méritaient d'être examinés, il n'y a pas de souci, mais par rapport à ce qui se passait réellement, vu à rebours dans cette histoire, c'est vrai que c'est risible. Et il a fallu vraiment que les victimes s'accrochent et insistent pour que les véritables griefs, qui sont ceux de violence volontaire avec mutilation, parce que à partir du l'acte médical est parfois violent. Je veux dire, quand vous faites arracher une dent, c'est une violence. Sauf que si c'est avec un but médical, la loi reconnaît la nécessité de le faire. Et si c'est avec le recueil du consentement du patient, il n'y a aucun problème. Vous ne pourrez pas faire condamner votre dentiste juste parce qu'il vous a arraché une dent qui méritait d'être arrachée et parce que vous lui avez dit qu'il pouvait le faire. Là, comme ils se rendront compte que le motif n'était pas médical, mais que le motif était de faire de l'argent, ça fera tomber toute cette partie-là. Et donc, tout ce qu'il fera, ce seront des violences. Donc, c'est pour ça qu'il a été condamné à 8 ans. C'est pour des violences volontaires, ayant entraîné des mutilations, ce qui est, dans le code pénal, le délit le plus grave avant les assises, quoi. C'est vraiment, en correctionnel, c'est le délit le plus grave, violence volontaire avec mutilation.
Ce monsieur était installé à Monceau chez les Sétons, une ville située à quelques kilomètres de son cabinet à Château-Chinon. À Monceau, il avait organisé de très très grandes fêtes quand il est arrivé. Il avait d'ailleurs été accueilli comme le Messie qui venait en quelque sorte sauver la région du désert médical. Il avait alors arrosé tous les notables du coin, ce qui fait que quand il s'est agi de témoigner contre lui, personne à Monceau ne s'est manifesté. Ce phénomène a fait dire à Nicole M., une ancienne patiente du dentiste qui a pris la tête du collectif de victimes, je la cite, « On avait l'impression d'avoir affaire à des élites qui se protégeaient mutuellement. » Un père de victimes dira également « Quand la politique couche avec la médecine, ça donne cela de point un monstre. »
Oui, il y a eu même certaines personnes qui sont allées jusqu'à penser à un complot et devant la lenteur de l'enquête à se dire que le dentiste était protégé et qu'il ne serait jamais condamné. Bon ben, heureusement pour eux, heureusement pour la justice, l'avenir a montré que ça s'est passé différemment. Après, est-ce que les élus et autres personnes qui avaient installé ce dentiste l'ont protégé? Moi, ce que je pense surtout, c'est que il y a eu un moment où on a eu du mal à croire les victimes. Ça, c'est certain. Après, je pense pas qu'il a été protégé, puisque au final, il a été condamné. Et pour en avoir discuté avec des personnes en place à cette époque. Leur première réaction, ça a été en effet de dire « Attendez, on vous a trouvé quelqu'un, pourquoi vous vous plaignez ?» Voilà, ça a été de pas croire sur l'ampleur des choses qui étaient présentées, que c'était vrai, de penser d'avoir affaire à des pleurnicheurs, quoi, pour parler trivialement. Mais ensuite, leur deuxième réaction a été mais ce gars, il nous a eu, nous aussi. » Parce qu'en fait, il avait été présenté comme un dentiste tout à fait compétent, voulant venir dans le Morvan parce qu'il avait besoin de grand air, que son épouse voulait vivre à la campagne et que ça tombait bien, il y avait beaucoup de Néerlandais dans cette région. Il a été présenté comme ça, alors que la réalité des faits était que c'était un dentiste qui avait déjà rencontré exactement les mêmes problèmes aux Pays-Bas. Il exerçait à La Haye, et à La Haye, il y avait des procédures disciplinaires qui commençaient à s'amonceler contre lui. Et il s'est dit, eh ben, je vais aller ailleurs où je pourrais repartir d'une page blanche. Et là-dessus, cette partie-là, les élus ne la connaissaient pas. Les élus l'ont découvert en même temps qu'elle a été révélée dans l'enquête. Et donc, ils se sont aussi sentis trahis. Et à partir d'un moment, il n'y a plus une personne dans le Morvan pour soutenir Jacobus von Nierop. Il s'est retrouvé tout seul quand tout ça a été dévoilé.
Oui, parce que les procédures à La Haye n'avaient pas encore eu le temps d'aboutir quand il a demandé l'équivalence de ses diplômes en France.
Les procédures à La Haye étaient disciplinaires, elles n'étaient pas judiciaires déjà, c'est une première chose. Ce qui fait que quand il a dû démontrer qu'il était dentiste, on lui a demandé s'il avait eu des poursuites judiciaires. La réponse était non et la réponse n'était pas un mensonge. On lui a demandé s'il y avait eu des poursuites disciplinaires, il a dit non et là c'était un mensonge. Qui lui vaudra d'ailleurs sa radiation de l'ordre en cours d'enquête. Tout ce qui s'est passé à La Haye, au final, ça sera un nouveau scandale au milieu du scandale. C'est-à-dire, pendant un moment, les gens penseront même que ce dentiste n'avait jamais été dentiste, qu'il n'avait jamais eu son diplôme. C'est pour ça qu'on parlera du boucher, c'est pour ça qu'on le traitera d'imposteur. En réalité, il a eu son diplôme. Ça a été vérifié, ça a été contrôlé, ça a été recontrôlé, parce qu'avec le bonhomme, on s'attendait à tout. Il a eu son diplôme. Par contre, il a très mal exercé dès le début, ça s'est su dès le début, sauf que dans la communication entre les Pays-Bas et la France, toute cette partie-là a été effacée. Et certaines victimes en sont venues à penser que... les Pays-Bas étaient bien contents de se débarrasser de Jacobus van Nierop. Et quand il a annoncé son désir de partir en France, ils ont dit « Très bien, vas-y mon gars, qu'on te revoie plus ». Et à cette époque-là, une procédure était encore en cours, parce que il y en avait pour laquelle il avait transigé, il y a eu des arrangements, mais il y avait une procédure grave qui était en cours, et cette procédure a été mise en stase. C'est-à-dire, elle a arrêté d'être instruite aux Pays-Bas. Et par un coup du sort, quand les choses ont commencé à mal tourner pour lui dans le Morvan, il a essayé de se réinscrire aux Pays-Bas, de faire le coup de la page blanche, mais dans l'autre sens. Et là, ça n'a pas du tout marché. L'ordre aux Pays-Bas a rouvert la procédure. Et dans les 6 mois qui ont suivi, l'ont radié. Donc il n'avait plus le droit d'exercer aux Pays-Bas.
Sur NVS Radio avec mon invité Bertrand Hiverneau qui parle de son livre Le dentiste du Morvan. Bertrand, avant la pause musicale, on a abordé les faits. J'aimerais maintenant qu'on parle du récit des faits, le travail d'écriture qui a donné le livre que j'ai sous les yeux. Tu nous as dit tout à l'heure que très vite, les victimes du dentiste se sont tournées vers la presse, faute de pouvoir être entendues par les autorités. Tu étais et tu es toujours chroniqueur judiciaire au Journal du Centre. Est-ce que c'est au moment où tu as vu arriver les premiers témoins à la rédaction du journal que tu t'es dit « il y a peut-être là une histoire, une affaire assez importante » entre guillemets?
Non, au tout début, je n'aurais pas imaginé que j'écrirais un livre sur cette histoire. Mon métier premier, c'est journaliste, ce n'est pas écrivain. Et je vais rencontrer les victimes en tant que journaliste. Et j'écris un article, effectivement, deux articles, cinq, dix, je suis l'affaire. Mais ça m'est arrivé de faire ça sur d'autres affaires, dans d'autres cas. Ce qui est différent entre cette affaire et toutes les autres, c'est que, ayant un petit peu bougé dans ma carrière, c'est la seule fois, en revanche, où j'ai suivi ça du début à la toute fin, du tout début à la toute fin. C'est-à-dire que j'étais là quand les faits ont été révélés pour la première fois. Avant, ils étaient dans le privé des gens et dans le privé de l'enquête de l'ordre ou de choses comme ça. Au moment où elle est rendue publique, j'étais là. Au moment où la personne a fini devant un tribunal, a été conduite devant un tribunal, j'étais là. Au moment où il a été condamné, j'étais là. Et donc, sur cette affaire, j'ai emmagasiné énormément d'informations, énormément de rencontres, énormément de contacts. Et pour moi, elle avait une couleur différente des autres. Et cette couleur, elle était aussi assez moche. Hein, c'est-à-dire que c'est une affaire qui n'est pas joli joli, hein. Vous avez cité tout à l'heure des exemples de ce qui a été fait à ces gens. Alors oui, on peut toujours trouver pire sur Terre, hein. Pire meurtrier, pire violeur. Hein. Faut remettre les choses en perspective. N'empêche que c'était un vrai scandale sanitaire avec un monceau de souffrance assez incroyable. Et j'avais envie de raconter ça une fois pour toutes parce que c'est le problème des articles de journaux, c'est qu'une fois qu'on en a fini un, on en écrit un autre, mais il n'y a pas ce long cours qu'on peut avoir dans d'autres médias. Donc j'avais envie, cette histoire, de la faire d'un rang et de la raconter de son tout début à sa toute fin.
À quel moment est-ce que tu t'es dit, là, ça vaut peut-être le coup d'aller trouver directement les victimes pour les entendre, peut-être d'ailleurs pour donner plus d'écho au collectif de victimes qui avait du mal à se faire entendre, hein, à l'époque?
Ça s'est fait dès le début, puisque mon premier contact avec cette affaire, c'est de rencontrer les victimes. Donc j'ai même plutôt vécu cette affaire, d'ailleurs, au rythme des victimes, avec ce qu'elles, elles apprenaient et qu'elles me relayaient, parce que, Comme toute affaire judiciaire, il y a un principe aussi de secret de l'enquête qui est tout à fait respectable pour pas gêner l'enquête. Donc j'apprenais souvent les informations en même temps que les victimes. Donc j'ai vraiment vécu cette affaire à leur rythme, jusque après l'affaire d'ailleurs, parce qu'on a continué à suivre après la condamnation. C'était pas tout à fait la fin de l'affaire pour ces gens-là, parce qu'il fallait qu'ils obtiennent réparation, parce que comme le dentiste, lui, c'était arrangé pour être insolvable, il fallait saisir des commissions pour pouvoir obtenir de l'argent. Donc j'ai vraiment vécu cette affaire au rythme des victimes. Ça a été une immersion en essayant de comprendre comment elles vivaient ça, combien c'était pesant et quels espoirs elles avaient, quels espoirs déçus, quels espoirs qui ont finalement abouti. Ça a été pratiquement tout du long, mon prisme, ça a été la victime.
Est-ce qu'à travers ton travail d'écriture, tu as eu le sentiment à un moment donné, grâce à tous ces témoins, d'approcher la personnalité de Van Nierop, hein, qui est, il faut le dire, quand même une personnalité complexe, hein, on pourrait même dire à étage. D'un côté, il semblait attiré par l'argent, et purement par l'argent, mais en même temps, relève certains actes qui relèvent du pur sadisme et qui ne lui rapportaient pas forcément beaucoup d'argent. Hein. Certains le décrivaient même comme un gourou. Des victimes disent qu'il était très doux dans la salle d'attente, mais très autoritaire et très menaçant dans la salle de soins. Les patients étaient quasiment assommés par les surdoses d'anesthésiens, ce qui permettait aux dentistes de faire ce qu'ils voulaient sur leur mâchoire, puisque les patients ne sentaient rien. Quand les victimes se rendaient compte qu'il avait fait n'importe quoi et qu'il revenait pour avoir des explications, le dentiste esquivait en disant qu'il parlait pas très bien français, le français qu'il retrouvait sans peine, hein, quand il s'agissait par exemple de congédier les artisans qui travaillaient au noir pour lui dans sa maison. Bref, c'était quand même quelqu'un de manipulateur qui semblait surtout y prendre plaisir.
Son côté manipulateur, il ne fait aucun doute. Là, à moi ni à personne, c'était un personnage manipulateur qui jouait de ses forces et de ses faiblesses pour faire des gens ce qu'il avait envie d'en faire. Ça, j'en suis convaincu. Là où la vérité peut-être m'échappe, ça reste sur ses motivations profondes. Dans ce livre, je me suis attaché vraiment à la vérité des faits. Ça, j'ai fait un travail pour tout recouper, pour vraiment avoir ce qui s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé, comment ça s'est passé. Ensuite, savoir exactement ce qui se passait dans la tête de Jacobus van Nierop à ce moment-là, je n'ai pas la réponse. Je pense que personne n'a la réponse, si ce n'est lui-même. Donc, là-dessus, ce sera des conjectures. Mais elles sont appuyées quand même par plusieurs expertises psychologiques et psychiatriques qui ont été diligentées durant l'instruction. On a quand même des pistes pour comprendre ce qui motivait ce personnage. Après, pour en être certain, chacun se fera son idée. Il y avait certainement un amour de l'argent que ses actes dans sa vie privée démontraient. Mais ça ne suffit pas pour aller charcuter 200, 300, 400 personnes. Donc, il y avait autre chose. Et cette autre chose, là, on rentre par moments dans des explications freudiennes qui sont assez complexes, assez bizarroïdes, qui peuvent se tenir, qui peut-être feront lever des sourcils à certains lecteurs, je le conçois. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête? J'aimerais bien un jour le rencontrer et lui demander, mais je crois qu'il n'a pas forcément envie de répondre.
Dans l'épilogue du livre, tu dis d'ailleurs que tu as essayé de le contacter via son avocat, mais que pour le moment, il préfère se faire oublier, c'est ça?
Exactement, oui, oui. Là, il est en mode profil bas et donc c'est tout à fait normal. Il a payé sa dette, il a fait sa prison, il a fait sa détention, il a eu les remises de peine habituelles, sans plus, sans moins. Maintenant, il est redevenu un citoyen comme les autres. S'il n'a pas envie d'en parler, je respecte tout à fait ça. Ma curiosité n'est pas totalement épanchée, mais c'est comme ça.
Alors, le livre égrène les cas de violence les uns après les autres. À chaque attaque de chapitre, on est immergé dans le cabinet avec un nouveau patient. Puis, on reprend la chronologie générale du parcours du dentiste depuis son arrivée dans la région jusqu'à sa cavale finale aux Pays-Bas. Bien sûr, ces cas de violence en eux-mêmes sont terrifiants, mais peut-être qu'on peut ajouter un mot quand même sur les méfaits secondaires qui colorent cette histoire. Des cas d'escroquerie à l'assurance, par exemple. Très peu de temps avant son supposé accident, Van Nierop avait augmenté auprès de son assurance le montant des dédommagements auxquels il avait droit en cas d'incapacité de travail. Accident assez peu crédible par ailleurs, puisque plusieurs témoins disent l'avoir vu conduire son 4x4 sans difficulté, avec ses deux mains, alors qu'il était censé avoir un bras complètement paralysé. Bref, encore des choses qu'il a fallu porter à la connaissance des victimes pour démontrer le côté affabulateur et menteur du dentiste, au-delà même de ce qui paraissait dans le cabinet dentaire.
Il avait le comportement qu'on retrouve sur des escrocs en série, c'est-à-dire des gens qui vivent dans la manipulation et aussi quelque part dans l'escalade, c'est-à-dire qu'il leur en faut toujours plus et un mensonge qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, ça devient exponentiel et on doit faire encore plus de victimes pour réussir à s'en sortir. Oui, son fameux accident domestique, aujourd'hui absolument plus personne n'y croit, sa paralysie qui a disparu miraculeusement un an plus tard quand il a compris que les assurances ne le rembourseraient pas là-dessus et n'y croyait pas. Oui, c'est un des exemples des choses assez folles qu'il a pu mettre en branle pour essayer de s'en sortir et qui ont fait au final que l'enfoncer un peu plus.
Quant à la toute fin, il est confondu par la justice. Là, il plaide la folie, des difficultés relationnelles avec ses deux femmes, puisqu'il s'est marié deux fois dans la période qui nous intéresse. Et puis finalement, il met ses problèmes psychologiques sur le compte d'un trouble de l'identité, un trouble profond de l'identité. Il dit par exemple qu'il voulait changer de sexe et se faire appeler Marcella.
Oui, c'est quelque chose qui est venu durant sa détention. C'est-à-dire, à partir du moment où il a été arrêté et que la France a obtenu son extradition et l'a mise dans une prison française, il s'est complètement effondré. Mais c'est un effondrement total. C'est un effondrement physique. Les personnes qui l'ont connu avant et qui l'ont vu entrer dans le box des détenus au premier jour du procès ne l'ont pas reconnu. C'est quelqu'un qui était avec une grande prestance, une grande carrure, un aplomb incroyable. Et la personne qui est venue dans le box, c'était quelqu'un de complètement avachi, les traits dégoulinants, sans doute bourré de médicaments anxiolytiques. Il s'est complètement effondré. D'ailleurs, le procès n'en a pas vraiment été un pour lui, puisqu'il a répondu à quasiment aucune question. Sa réponse habituelle étant « je ne me rappelle pas ». Ce qui a énormément fâché les personnes quand on parlait de leur cas particulier, d'une personne avec, à qui il a planté l'aiguille, la seringue directement dans un abcès et qui s'est tordu de douleur sur son siège. Il l'a regardé et dit « je ne me rappelle pas de cette personne, je ne peux pas vous dire s'il a été mon patient ». C'est comme un deuxième coup de seringue hein, pour la personne, c'est assez humiliant. Et il ne semble pas avoir fait ça par jeu au procès. Il ne semble pas qu'il était encore dans la manipulation. L'effondrement psychologique avait l'air vraiment réel. C'est quelqu'un qui voulait être dentiste pour avoir la prestance, pour avoir les émoluments, pour pouvoir vivre une vie qu'il rêvait. C'était quelqu'un qui aimait les gros cigares, les grosses voitures américaines, les beaux palaces pour ses week-ends. Donc ça, fallait le financer. Donc à partir du moment où il se retrouvait détenu à Saran, au milieu d'autres escrocs, de violeurs, de tueurs, sa psyché s'est complètement déchirée et il n'a jamais pu faire face aux questions ou aux explications. Et c'est là qu'est venu aussi son récit, comme quoi il était une femme depuis l'enfance, une femme coincée dans le corps d'un homme et qu'il voulait changer de sexe mais qu'il ne savait pas comment faire et que chaque problème de sa vie était lié à ça. Il est allé jusqu'à dire que c'était devant le juge d'instruction, pas au procès, hein, parce que donc au procès il a pas parlé, mais il est allé jusqu'à dire au juge d'instruction que ce problème d'identité sexuelle était ce qui lui faisait disjoncter pendant qu'il faisait des soins, et il en oubliait ce qu'il fallait faire à ses patients, il faisait n'importe quoi. Bon, je crois pas que la juge d'instruction y ait cru, je crois pas que le tribunal ait cru à ça. C'est possible, en revanche, que ce problème existe, hein, je ne le nie pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas dans la tête de ce monsieur et je peux pas répondre à ça. C'est possible que ce problème ait existé, de là à ce qu'il ait guidé sa main à chaque jour de sa vie de dentiste. Moi, j'ai des gros doutes.
Bertrand Hiverneau, merci pour toutes ces indications. Tu restes avec nous. Après la pause musicale, on retrouvera Murena pour la pastille Avoir à lire. Après quoi, on évoquera ton actualité et répercussions du livre depuis sa parution en 2003. Tout de suite, monsieur Thomas Fersen, vous êtes sur NVS.
Les passants sur son chemin soulèvent leur galure. Le chien lui lèche les mains. Sa présence se rassure, voyez cet enfant qui bugle, par lui secouru, et comme il aide l'aveugle à traverser la rue, dans la paix de son jardin, il cultive ses roses, monsieur est un assassin. Quand il est morose, il étrangle son semblable, dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable, quand il a le bourdon, à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier. Sous les églantines, je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain quand il a le cafard. Allez hop dans le bassin, sous les nénuphars, et je donne un coup de balai. Sur le lieu du crime où il ne revient jamais, même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis son chauffeur, la 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 la. C'est un lunatique, monsieur est un assassin. Chez lui c'est chronique, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne et moi je pousse le diable, dans le bois de Boulogne, le client dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable dans le bois de Meudon quand il est inconsolable. Quand il a le bourdon à la barbe des voisins qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique. Vous allez prendre monsieur, je vais perdre ma place. Vous allez prendre monsieur, hélas, trois fois hélas. Mais il fallait s'y attendre, et je prie votre honneur humblement de me reprendre comme serviteur. Et je classerai ce dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine.
Bienvenue à une nouvelle voix dans Façon de voir, c'est Murena. Alors Murena comme la méchante dans La Petite Sirène, c'est ça?
Pas spécialement, bonjour.
Bonjour. Alors aujourd'hui pour la pastille Avoir à lire, qu'il faudrait pour l'occasion rebaptiser Avoir et à entendre, tu vas parler de l'actualité d'une chanson de Diane Tell écrite dans les années 80 et de son parallèle avec une pièce de Tennessee Williams, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Alors, tout d'abord, merci Samuel de m'avoir proposé cette chronique aujourd'hui. Et bonjour à toutes et à tous. C'est donc en attendant un hypothétique train, ce vendredi 16 février, que j'ai repensé et écouté cette merveille de chanson « Ah si j'étais un homme » de Diane Tell. Cette chanson fut écrite, composée et chantée par Diane Tell elle-même. Une nuit, en voiture, en rentrant chez elle, débutant dans les rues de New York et la terminant une fois arrivée chez elle à Montréal. Mais pourquoi donc cette chanson de 1980 m'a paru si actuelle et si intemporelle? Elle résume, oui, sans doute, nos combats de femmes, nos peurs et nos pleurs, mais aussi nos joies et toutes nos émotions positives, bien sûr, de l'amour partagé avec un homme ou une femme, peu importe, mais bel et bien partagé. Cette chanson fut attaquée par un mouvement féministe de l'époque. La question se pose encore. Une femme peut-elle offrir des fleurs, un voyage ou une villa à l'homme qu'elle aime? Ces dernières années nous montrent une augmentation du sexisme chez les jeunes. Et j'ai bien peur que le retour au conservatisme ne soit pas de très bon augure pour nous les femmes et surtout nos filles. Ce retour au conservatisme et au sexisme ne serait-il pas en réaction à l'émancipation des femmes, pour mieux nier les fragilités masculines? Bon, quand je dis fragilité masculine, je parle des nôtres également, hein. Nous avons toutes et tous les deux en nous, un côté homme et un côté femme. Et puis, il y a un homme qui assume sa vulnérabilité et ses fragilités, et d'autant plus viril et sexy. Et on adore, messieurs, ce qui est complètement différent d'être faible. Restons sur le sujet de la semaine, en lien avec ce que je viens de dire. Trois femmes, comédiennes, connues, ont parlé. Combien d'inconnues, avant, ont parlé? Et aussi, combien n'ont pas ou plus parlé? La liberté de la parole de la violence faite aux femmes n'est pas nouvelle. Elle a toujours existé. La différence, c'est l'écoute. La prise en compte de nos paroles. Vous allez mieux comprendre. J'ai donc finalement été à Paris. Et je suis même revenue à Nevers. Un exploit en 48 heures de grève. J'y suis allée pour aller voir une pièce de théâtre, Un tramway nommé Désir, de Tennessee Williams. Mise en scène par Pauline Susini et merveilleusement jouée par l'intégralité des acteurs. Lionel Abelansky, Christiana Reali, Marie-Pierre Nouveau, Nicolas Aviné, bref. Si nous avons tous déjà entendu ce titre de pièce ou film, en connaissons-nous vraiment l'histoire? Cette pièce a été écrite en 1949. Un prisme nouveau a été montré via le parti pris de Pauline Susini, contrairement au film réalisé en 1951 et joué par Marlon Brando et Vivian Leigh. L'histoire, très brièvement. Stanley et Stella attendent un enfant. Stanley est un homme violent, Stella sous emprise, sur fond d'alcoolisme, de réconciliation sur l'oreiller, de rire et de soumission. Blanche, la sœur de Stella, débarque dans leur vie et dans leur appartement. Blanche a quitté sa ville car rejetée, rejetée car libre, libre car veuve. Ce qui devait arriver arriva, Stanley viole Blanche le soir de l'accouchement de Stella. Blanche montrait des failles psychologiques, car Stanley a été fouillé dans la vie de Blanche et la câble de son comportement de femme libre. Quand bien même Blanche aurait-elle été si fragile si... Quand bien même Blanche aurait-elle été si fragile si elle avait été comprise, entendue et soutenue? Blanche parle à Stella de ce viol à son retour et Blanche est tout simplement envoyée à l'hôpital psychiatrique. Allez hop, et oui, à l'asile, la femme libre qui parle de viol. Trop d'efforts à fournir pour Stella et ses amis pour s'ériger contre ce Stanley qui règne en maître car il a le pouvoir. Dans le film, Vivian Leigh est montrée uniquement comme sombrant dans la folie et Brando comme goujat, mais homme. Vivian Leigh a d'ailleurs fini le film complètement bouleversée, malmenée et confiée à un asile psychiatrique, paraît-il, à la fin. Merci les joies de l'acteur studio et le comportement de Brando, peut-être. La chanson de Diane Tell ne parle pas de viol et de violence. Elle parle de liberté. Et les deux me semblent inexorablement liés. Alors, une femme peut-elle offrir des fleurs à un homme? Je suis de celles qui disent oui, bien sûr. Quand bien même j'adore que l'on m'en offre, surtout si c'est mon amoureux. Et pour le voyage et la villa, aucun problème, bien sûr. Bon. Pour l'amour à la plage, ou sur la plage, comme dans la chanson, c'est beau dans les films, mais pas très confort. Alors, les temps ont-ils changé? De nos jours, est-ce vraiment chacun pour soi? Et ces histoires d'amour démodées n'arrivent-elles qu'au cinéma? Je suis une incorrigible romantique, même si j'essaye parfois de le cacher ou de faire croire le contraire. Mais je veux continuer d'y croire. Que faire d'autre? En ces temps si difficiles, parfois au quotidien, nos vies bousculées, chahutées, précarisées, nos sœurs violentées, réduites à des citoyennes de seconde classe, considérées comme moins, sous l'égide d'un dieu ou pas, à quelques milliers de kilomètres, ou pas d'ailleurs, mais sous l'égide d'un contrôle absolu d'un homme en perte de virilité. Eh bien, en ces temps compliqués, réécoutons cette chanson et restons libres. Aimons, oui surtout, aimons et acceptons de l'être, car ça, personne ne nous le prendra. Et vous, messieurs, alors, ah, et si vous étiez une femme, que feriez-vous?
Merci Murena pour cette jolie chronique. On se donne rendez-vous le mois prochain?
Mais avec plaisir, merci à toi Samuel.
On verra bien si tu m'offres des fleurs, hein, du coup.
Moi si j'étais un homme, je serais capitaine. voix. Je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voit et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme et quand on est femme, choses-là ne se font pas. Il faut dire que les temps ont changé et de nos jours, c'est chacun pour soi.
Titre qui fait écho à la très jolie pastille de Murena qu'on retrouve donc le mois prochain. Retour au micro de mon invité du jour, Bertrand Hiverneau, pour ce tout dernier échange autour du livre « Le dentiste du Morvan ». Bertrand, est-ce qu'on peut maintenant évoquer les mesures qui ont ou qui n'ont pas été prises, pour être plus précis, depuis l'affaire ? On sait que ce sont souvent les faits divers qui font bouger les lignes en matière de législation, mais est-ce que depuis l'affaire du dentiste, on observe des changements ? À la fin du livre, tu en appelles de tes vœux, ou peut-être pas des tiens d'ailleurs, mais plutôt de ceux des victimes, pour qu'on renforce les contrôles au niveau des équivalences des diplômes obtenus à l'étranger, par exemple, pour exercer la médecine. Est-ce qu'une vigilance accrue a été mise en place à ce niveau-là, par exemple ?
Alors, au cas par cas, je ne pourrais pas répondre s'il y a une vigilance accrue. Dans le cas de la Nièvre, pour en avoir discuté avec des élus, je sais que... Ils ont juré de ne plus jamais se faire avoir de la sorte. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'au niveau législatif, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas de dispositif de communication qui s'est amélioré entre les pays européens pour faire passer un praticien d'un pays à un autre. Il n'y a rien actuellement qui a changé, ce qui est un peu rageant, parce que dès le début de l'affaire, dès 2012, quand elle est révélée, on entend des élus dire « mais il faut qu'on porte... » un projet pour changer les législations pour que plus jamais que ça se reproduise. Et voilà, on est 12 ans après et absolument rien n'a changé. Techniquement, un Jacobus van Nierop pourrait refaire le même coup à une autre sous-préfecture française demain.
Est-ce que tu as gardé des contacts avec les victimes que tu as rencontrées pour écrire le livre ?
Je revois de temps à autre Nicole Martin, la présidente du collectif. Et c'est toujours un plaisir parce que c'est une femme admirable. Moi, j'ai toujours été impressionné par sa force et son courage dans cette histoire. C'est une véritable lanceuse d'alerte avec ce que ça a comporté de doutes et d'échecs avant de finalement réussir. Elle a vraiment eu un parcours assez incroyable et j'apprécie de la retrouver. Malheureusement, c'est tout le temps, on se retrouve tout le temps pour discuter de cette affaire, on n'en sort jamais, mais voilà, oui. Et puis je continue de suivre ça, les derniers soubresauts, là c'est à peu près fini, les dernières personnes sont indemnisées, souvent faiblement, mais au moins indemnisées, et voilà, on va bientôt pouvoir clore définitivement cette histoire, même si ça aurait été chouette, ça aurait été légitime, ça aurait été bien de la clore par un changement de législation, par un plus jamais ça, un niveau plus haut que celui de la Nièvre, quoi.
Nicole Martin dit qu'il ne se retrouve plus entre victimes parce que ça voudrait dire que l'affaire continue. Or, tous veulent tourner la page aujourd'hui.
Le collectif, oui, a été dissous parce que ils voulaient pas faire un groupe d'anciens combattants et se rappeler leurs souvenirs de guerre, non, parce que c'est des souvenirs trop moches pour eux. Et puis effectivement, tout le monde veut avancer Et à chaque fois, moi, par exemple, que je rencontre Nicole Martin, je lui demande est-ce que vous avez encore envie de me revoir pour recoser de ça, ou on laisse passer un peu de temps. Enfin, voilà, quoi. C'est tout à fait humain de vouloir mettre l'histoire derrière soi, et surtout quand elle est aussi douloureuse.
Cette histoire a eu de nombreuses répercussions. Localement, elle a donné lieu à une soirée débat au Théâtre des Forges. Tu as proposé des lectures de pages de ton livre et la compagnie Carambole a même mis en scène certains passages. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les réactions du public et puis plus généralement de l'opinion concernant la soirée, mais aussi concernant l'affaire en général ?
Y a de l'intérêt pour cette histoire. Les gens s'identifient très facilement personnage de cette histoire. Ben, tout le monde est allé chez un dentiste dans sa vie. Beaucoup d'entre nous, ils sont allés à reculons, donc c'est facile de s'identifier. Les réactions, il y a toujours des petites réactions de recul quand on rentre dans le spécifique de cette histoire. Je sais que plusieurs lecteurs du livre m'ont signalé qu'ils avaient mal aux dents rien qu'en le lisant. Bon, voilà. Après, c'est peut-être un mal nécessaire aussi pour être plus précautionneux à l'avenir et mieux prendre soin de ses dents. Mais oui, il y a une forme d'horreur du quotidien qui est retranscrite dans le livre, parce que c'est la réalité. Hein. J'ai pas voulu faire un livre d'horreur pour me faire plaisir ou pour choquer. Hein. C'est juste parce que c'est ce qu'ont vécu ces gens. Donc il faut le relier. Donc il y a toujours ce petit recul sur les moments, on va dire, gore du récit chez les gens avec qui j'en discute. Mais il y a toujours de l'intérêt. Et puis, il y a aussi des gens qui sont attirés par le côté, par le volet psychologique de l'affaire. Hein. Ça, c'est l'attirance qu'on a pour les grands criminels, quoi. Mais comment c'est possible? Comment fonctionne-t-il? C'est quoi un monstre à l'intérieur? Bon, j'emploie ces mots avec des guillemets, hein, pour le mot monstre. Voilà, donc il y a toujours une envie de comprendre le pire, quoi.
Quand on lit certaines anecdotes, on peut tous se dire de manière sûre, au fond, ça aurait pu m'arriver, hein, parce que même quelqu'un qui arrive sans aucun problème dentaire pouvait se retrouver avec plusieurs rendez-vous pris, et là, à l'arrivée, c'est la catastrophe assurée, simplement parce qu'on fait confiance.
La confiance, elle est normale. On doit avoir confiance dans le milieu médical, sinon nos vies seraient beaucoup plus courtes et beaucoup plus douloureuses. On doit avoir confiance. Après, il doit aussi y avoir des garde-fous. C'est-à-dire que quand on donne notre confiance à un praticien, il doit y avoir des contrôles derrière. Et la partie contrôle est parfois la partie où il y a des failles. Oui. En France, l'administration n'est pas, ne budgétise pas très, ne met pas de gros budget sur le contrôle, on le voit. Il n'y a pas tant d'inspecteurs du travail que ça. Il n'y a pas tant d'inspecteurs sanitaires que ça. C'est pas, clairement pas la priorité des gouvernements successifs, des administrations successives, de renforcer le contrôle. Et c'est bien dommage du point de vue des administrés, parce que ça permettrait d'éviter d'autres scandales.
Merci Bertrand Hiverneau d'avoir accepté cette invitation pour parler de ton livre Le Dentiste du Morvan, dont je recommande chaudement la lecture, parce que même si les faits rapportés sont pour le moins horrifiques, on en a eu un petit aperçu dans cette émission, la lecture du livre est, elle, tout à fait fluide et réjouissante. Le Dentiste du Morvan est donc paru en 2023 chez Deboré, collection Histoire et Documents. Je mets de toute façon les références complètes sur la page de l'émission via le site internet de votre radio préférée. L'adresse c'est www.nvsradio.fr. Vous cliquez sur l'onglet replay, puis façon de voir. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram en tapant le nom de l'émission Façon de voir dans la barre de recherche. Abonnez-vous pour ne rien rater de notre actu. Merci également à Murena pour sa chronique musicale et ses recommandations théâtrales. Les références de la pièce Intramoué nommée Désir au Bouffe Parisien sont en ligne sur notre page. Cette émission a été préparée avec un coup de main d'Esteban. Merci à lui. Vous pouvez la podcaster ou la réécouter quasiment à l'infini à partir de demain grâce à Internet. Je vous dis à très bientôt. Restez sur NVS.